12h37 et jusqu'à 13h, les rendez-vous de l'été avec vous aujourd'hui, Juliette, dans nos studios minutieux. Alors c'est l'un des batteurs de pavés, spectacle de rue à voir, théâtre de rue, en tournée en Vendée avec l'excellente Déferlante.
Et oui, aujourd'hui effectivement, nous accueillons donc les batteurs de pavés dans les rendez-vous de l'été, enfin un de leurs co-directeurs. Ils nous viennent de Suisse et m'ont dit adorer venir se produire en France, le pays de Molière. Ils jouent pourtant en ce moment du William Shakespeare en Vendée. Ils se sont donné pour mission de revisiter tous les classiques de Corneille à Tchekhov et de les partager et de les jouer dans la rue pour que tout le monde puisse les connaître. Bonjour Manu Moser.
Bonjour. Oui, je suis venu sur mon co-directeur. Il y a normalement, on est censé y être deux, je suis tout seul. Vous connaissez les artistes de rue, ça boit le soir, ça se lève pas le matin. Et en plus, il s'est fait mal à la voix hier, il a pas osé le dire, mais du coup, je suis tout seul pour présenter parce qu'il joue ce soir dans Richard III.
Donc, on le salue et on lui souhaite bon rétablissement pour ce soir.
Ouais, on va faire ça, on va être gentil avec lui, tiens.
Vous êtes donc le co-directeur de la troupe des batteurs de pavés. Qui sont les autres membres de la troupe présents en Vendée?
Alors, dans les batteurs de pavés, il y a Laurent Lecoultre, mon co-directeur, mais il y a aussi Mathieu Cessely, Laurent Bayer et Elima Héritier, qui jouent dans Richard III. Et Laurent et moi-même, on joue dans Hamlet, qu'on a joué d'ailleurs hier soir, pas très très loin d'ici, à Barbâtre. Ça, c'est la base de... En fait, la base, c'est vraiment nos duos. On a deux types de spectacles, on fait des duos et des spectacles avec plus de monde. Et on est environ entre 5 et 6 personnes qui tournent chaque été avec les différents projets qu'on a.
Et par le passé, vous m'avez dit avoir joué Germinal ou Corneille, enfin du Émile Zola, une adaptation, le Cid. Vous êtes un fan de textes classiques, alors que vous avez le look d'un motard rock punk, un peu.
C'est je me déguise en fait, c'est parce que dans la rue.
Ce sont deux faces connectées de votre personnalité.
Absolument. Non, mais il y a une chose qu'on se rend pas bien compte, c'est que Shakespeare va très bien avec la musique hip-hop, et puis on se rend pas compte à quel point Corneille était un rocker, Molière était un punk, c'est bien connu. Et le truc, c'est que maintenant on se dit non. C'est à l'Académie française, tout, c'est des gens propres et tout, mais pas du tout. À l'époque, c'était des gens qui révolutionnaient tout. Molière, c'était un sale gosse, honnêtement. Corneille, il s'excusait au début de ses spectacles de ce qu'il allait faire parce qu'il respectait pas tout à fait les fameuses trois règles du classicisme. Et si on veut y aller, on sait bien que Barre était un punk. Ce qu'il faisait à l'époque, ça devait hérisser le poil des braves gens. Donc, on imagine toujours que pour aimer les grands textes classiques, il faut porter une cravate et ennuyeux à mourir, mais pas du tout. Les grands textes classiques sont d'une actualité et d'une férocité terrifiante. Relisez les grands classiques romains, par exemple Sénèque. Ceux qui relisent Sénèque, vous allez voir à quel point on est devenu des gens sages au XXIe siècle.
Par exemple, vous avez un exemple concret
Un texte terrifiant. Prenez par exemple Richard III. Ah, on se dit Richard III, c'est un texte classique et tout, mais qui oserait encore montrer des séries de meurtres, des gens qui se marient avec leur propre cousine en scène, des histoires où on trahit nos meilleurs amis, où on fait massacrer tout le monde par les autres, on prend le pouvoir et on est heureux, et en plus le public en redemande. Voilà par exemple un texte terrifiant. Mais si vous prenez L'école des femmes de Molière, c'est extrêmement inquiétant comme histoire. C'est quand même l'histoire d'un homme qui enferme une demoiselle à la cave dans
ça
sa
arrive
cave
encore aujourd'hui.
Pour qu'elle soit exactement comme lui il en rêve. Je veux dire, au 21e siècle, une histoire pareille, ça laisse songeur quand même un petit peu.
Malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui.
Ah oui, ça arrive encore.
C'est dans l'actualité.
C'est assez autrichien d'ailleurs, comme habitude.
Autrichien ou américain?
Ouais, oui, américain aussi. Donc voilà, non, j'ai un look de biker, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas de moto et j'ai toujours rêvé d'en avoir une.
Ah, bah, les rêves sont faits pour être réalisés.
Ouais, mais je crois que j'y arriverai jamais. Hein. Si je me mets sur une moto, j'ai peur de me tuer tout de suite.
Ouais, il faut faire attention au volant d'une moto, ça c'est sûr. Vous allez jouer Richard III, donc, dont vous parliez, ou Le Pouvoir Fou. Ce oui. soir à Saint-Brévin-les-Pins et lundi 16 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous l'avez joué à Notre-Dame-de-Mont mercredi.
Oui.
Est-ce que Richard III, dans notre monde moderne, ça pourrait être Donald Trump, par exemple?
Alors Richard III, ça pourrait être tout à fait Donald Trump. Ça pourrait d'ailleurs ressembler à pas mal de dirigeants de notre monde, où on a un peu l'impression que les gens n'ont pensé plus qu'à la communication, sont les retombées même de la communication. On peut penser au Brésil, on peut penser à la Hongrie, on peut penser à certains Suisses, à certains Français, à des Allemands. C'est en fait une figure du pouvoir assez contemporaine, bizarrement. Heureusement, j'espère que nos figures du pouvoir actuel ne sont pas aussi violentes que celles-ci, je l'espère, du fond du cœur, parce que j'ai envie de croire en l'humanité.
Et il me semble qu'à l'époque, par cette tragédie, Shakespeare faisait une critique déguisée du pouvoir. Est-ce que c'était vraiment le cas ?
Oui, c'était le cas. Shakespeare utilisait l'histoire, en fait, il détournait l'histoire pour faire de la morale. On parlait d'une histoire moraliste, je crois. Et en fait, il détournait l'histoire pour raconter des choses, pour éduquer le peuple. C'était vraiment son but. Et donc, effectivement, il a fait pas mal de critiques du pouvoir en réutilisant des grandes figures pour dire ce qu'il pensait un petit peu de ce qui se passait à ce moment-là. C'est intéressant d'ailleurs dans l'œuvre de Shakespeare. L'une de ses dernières œuvres s'appelle La Tempête. Et dans La Tempête, c'est aussi une figure de pouvoir qui est très puissante, mais qui pardonne tout le monde. Et c'est l'une de ses dernières œuvres. C'est une œuvre qui pardonne. Si vous n'avez jamais lu Shakespeare, il faut commencer par Richard III et ensuite lire La Tempête. Puis après le reste, bon, vous n'êtes pas obligé.
Roméo et Juliette.
Oui, il faut lire Roméo et Juliette si vous n'avez jamais lu. Mais par contre, faites attention à la traduction. Parce que nous, on a pris une traduction d'un homme qui s'appelle François Victor Hugo. Et comme le dit l'un de mes comédiens, il a le nom de son géniteur, mais il n'a pas eu le génie de son géniteur. Donc Victor Hugo, oui, François Victor Hugo, bah, c'est un fils de quoi. De
part Macbeth aussi. Nom.
Alors, Macbeth, magnifique histoire, mais il ne faut jamais monter Macbeth, c'est une pièce maudite. C'est une malédiction. Quand vous montez Macbeth, il vous arrive toujours des malheurs. C'est comme quand on dit pas vert ou corde sur une scène de théâtre. Il y a des espèces de croyances un peu comme ça. Et ben, faut pas monter Macbeth parce que vous êtes sûr d'avoir des problèmes.
Et à l'époque, comment Shakespeare a réussi à passer à travers la censure ou voir la potence?
Il y a deux choses. À l'époque où Shakespeare a écrit, c'était sous la période du règne des reines Élisabeth. Les reines Élisabeth, il y en a eu deux ou trois, je ne sais plus bien. Pardon pour ma méconnaissance de l'histoire anglaise. Mais les reines Élisabeth avaient offert beaucoup de liberté de parole au peuple. Beaucoup plus que 30 ans plus tard, les puritains qui sont arrivés au pouvoir, eux, avaient tout coupé. Et donc, ils ont tout retiré, hein, les libertés de parole, etc. Mais pendant une période très courte, la période élisabéthaine, il y a eu une grande liberté de parole. On oublie un peu que dans l'histoire, il y a eu des périodes de liberté. On oublie un peu qu'au Moyen-Âge, par exemple, il y avait des communautés de femmes qui s'organisaient entre elles pour vivre correctement. Donc voilà, c'est les périodes de l'histoire qu'on a un peu oubliées. Ça arrange peut-être quelqu'un. J'ai pas envie de faire du complotisme. Mais c'est vrai que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et effectivement, à l'époque, il faisait ça. Mais il faut savoir aussi que c'était un homme extrêmement réputé, donc avait une vraie grande réputation, et que les gens adoraient ses œuvres. Et n'oubliez pas une chose, hein, les rois et les puissants avaient des fous qui leur racontaient des histoires terrifiantes, qui les faisaient grincer, ils adoraient rire, et c'est encore le cas maintenant.
Et donc, vous avez joué aussi Hamlet à Noirmoutier,
oui.
Et le roi fou à Notre-Dame-de-Mont. Comment le public a accueilli votre jeu? Vous jouez depuis longtemps en Vendée.
Oui, on joue depuis longtemps en Vendée. La première fois qu'on est venu, je crois que c'était en 2008 ou 2009, on était venu avec un Cyrano à l'époque, qui avait une œuvre qui nous avait permis d'être connu en France. C'est la pièce de théâtre qui nous a ouvert la France, les portes de la France. Et je me souviens qu'il nous avait fait venir, on avait fait plusieurs villes. Excusez-moi, je ne me souviens pas de tout, je vous avoue.
2008-2009, ça monte.
On revient après plusieurs années. On a créé Hamlet. On a créé Hamlet dans le cadre de la déferlante, dans le cadre d'une résidence en hiver. J'ai un assez bon souvenir de la Vendée en hiver. Moi, j'aimais bien l'ambiance hivernale. Et puis, le public réagit plutôt bien. On a deux formes. Le Richard III, c'est vraiment une forme spectacle. Donc, les gens s'assoient et regardent une histoire qui dure 1h10 environ. Et le deuxième, le Hamlet, c'est un spectacle qu'on appelle interactif, ce qu'on appelle une salade en théâtre de rue. C'est-à-dire qu'on va utiliser le public pour jouer tous les rôles de l'histoire. Et on a fait Germinal sous cette forme-là, mais on en a fait d'autres. Et celui-là, hier soir, ça s'est très bien passé à Barbette. Le public était relativement accueillant, voire un peu fou à un moment donné. C'est devenu incroyable.
Par exemple,
le public nous répondait, il se passait des trucs, les gens ont commencé à rire, il y avait des commentaires. Les adultes ont commencé à faire des cris à la place des enfants qui étaient en scène, qui les oubliaient. Donc voilà, mais c'est plutôt sympa la Vendée au printemps ou en été, parce qu'il y a un public qui est là pour ça, qui a le temps de vivre et qui est détendu. C'est les vacances. Mais c'est plus détendu qu'au bord de la Côte d'Azur. Restez là. Et donc, c'est plutôt sympa, en fait, comme ambiance.
Je vous rappelle que Hamlet, vous allez le jouer mardi prochain à Bretignolles-sur-Mer.
Oui, à Bretignolles. Quel joli.
Et donc, on va faire une pause musicale et on se rejoint juste après pour parler un peu plus de Hamlet.
Oui, d'accord.
On revient très vite, juste après Boulevard des Airs sur Neuve.
Dis-moi comment tu danses. Je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses. Je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses. Je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es.
L'amitié. métier, c'est les cœurs, les amis. C'est ceux qui t'accompagnent, même quand tu chantes faux. Quand t'es pas hyper juste, ça arrive. Ils s'arrêtent pas, les cœurs. C'est difficile de définir l'amitié, la vraie. Et quelque part, c'est très simple. Quelque part, c'est très simple. C'est quand tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas les cœurs, non. Ils s'arrêtent pas. Dis-moi comment tu danses. Je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses. Je te dirai qui tu es. Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point. C'est ceux qui sont encore là après toutes ces années, après toutes les distances, après toutes les crises. C'est ceux qui sont encore là, vraiment là, et malgré tout. Tu vois, c'est très simple. C'est très simple, c'est quand. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non. Quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser. Tu sais plus où ta tête allait. Ils s'arrêtent pas les cœurs, non. Ils s'arrêtent pas. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses. Dis-moi comment tu danses.
Envie de vous régaler sans attendre. Laissez-nous 3 minutes. C'est prêt. La Pelosa vous présente son nouveau distributeur. Pizza maison chaude ou froide, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais aussi kebab, burger, croque et frites. Au fourneau, votre pizza Yolo Benjamin, formé par les meilleurs et diplômés du France Pizza Tour. Installez l'application Smart Pizza. Commandez, dégustez. Le nouveau distributeur de votre restaurant pizzeria La Pelosa, 2 rue du Pays de Mont, à Boin.
Pour votre santé, bougez plus.
Nov.
Vous aimeriez capter Nov FM partout? Découvrez la nouvelle application Nov FM pour profiter de votre radio où que vous soyez.
Nov FM, ma radio ici et ailleurs.
Et on y retourne sur Nov en direct, encore pendant 10 minutes, tant mieux, les rendez-vous de l'été. Vous recevez aujourd'hui Juliette dans nos studios. Manu, Manu, des batteurs de pavés.
Oui, c'est le co-directeur de la troupe des arts de la rue.
Oui.
Et tout à l'heure, on parlait de Hamlet.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous conter, nous narrer
Hamlet,
ce classique de Shakespeare?
Pour ceux et celles qui n'ont pas la chance encore de connaître Shakespeare, Bande de Vénards, vous aurez l'occasion de le lire. Je vous le conseille parce que c'est sublime et je crois que c'est bien de lire ça en été. Et pour les plus jeunes, il existe d'excellentes versions, si jamais, de Hamlet. Par exemple, si vous voulez voir une bonne version d'Hamlet, pour les plus jeunes, je vous conseille de regarder le film Le Roi Lion. Parce que Le Roi Lion, c'est l'histoire d'Hamlet. Hein. Et pour les plus âgés, vous pouvez regarder Sons of Anarchy. C'est basé sur le principe d'Hamlet. Hein. Dans ces deux cas, c'est l'histoire très légèrement détournée, mais très légèrement. Et pour ceux qui ont vu le King Lion, vous verrez que c'est pas tellement détourné. En fait, Hamlet, c'est l'histoire d'un jeune prince qui vit dans son château au Danemark. On est au 15e siècle, je crois. Et celui-ci, un jour, perd son père qui meurt dans ses jardins. Alors, pour rassurer la population, le frère du roi, donc l'oncle d'Hamlet, devient nouveau roi et il se marie avec l'ancienne reine de l'ancien roi, qui devient ainsi la nouvelle reine du Danemark, qui est la mère d'Hamlet, qui reste prince. D'accord? Jusque-là, c'est très simple. Et donc, en fait, Hamlet, il est pas très content parce que, bon, sa mère se remarie avec son oncle alors que le corps de son père n'est pas encore refroidi. Et au milieu de la nuit, il y a un fantôme qui vient lui parler, c'est le fantôme de son père, en tout cas il le pense, qui lui dit qu'il a été assassiné par son oncle Claudius, et donc il demande à Hamlet de se venger. Et là Hamlet, pour comprendre ce qui s'est passé, et pour faire semblant de rien, il commence à faire semblant d'être fou, d'avoir perdu ses esprits, pour mener son enquête un peu en catimini. Et peu à peu, grâce à un spectacle dans lequel on voit un roi qui meurt et son frère le tuer et devenir le nouveau roi, il découvre que effectivement son oncle est visiblement l'assassin de son père, et donc il décide de le tuer. Sauf que le roi, il envoie Hamlet pour une mission en Angleterre, sauf que c'est une mission suicide en fait, parce qu'il l'envoie se faire tuer par ses deux meilleurs amis. Hamlet déjoue les tours, revient à ce moment-là de l'histoire, sa bien-aimée en chemin, Ophélie, qui est l'amoureuse de Hamlet, en chemin elle découvre que son amoureux est devenu fou, et qui en plus, par hasard, une histoire de quiproquo à la Shakespeare, il tue le père d'Ophélie, sa bien-aimée, qui est le premier ministre du pays, donc elle devient folle, et elle finit par tomber dans la rivière, au pied du château, elle se noie. Ça fait d'ailleurs un très beau tableau chez les peintres, il y en a plusieurs très très beaux là-dessus, c'est un assez beau thème. Et puis donc quand il revient, il découvre que sa bien-aimée est morte, et là il y a Laerte, le fils de Polonius qui l'a tué, et le frère de sa bien-aimée qui vient, qui est pas content. Le roi embrigade Laerte, et lors d'un combat il propose à Laerte de tuer Hamlet, mais dans un combat singulier, et ils mettent du poison sur l'épée, et en plus ils mettent du poison dans la coupe à laquelle Hamlet va boire. Donc pendant qu'ils se battent, Hamlet est blessé, en chemin il récupère l'épée, il tue Laerte. Pendant ce temps, la reine, qui savait pas qu'il y avait du poison dans sa coupe, elle a peur, alors elle boit le vin que Hamlet devait boire avant que le roi ait le temps de lui dire quoi que ce soit. À ce moment-là, évidemment, son ami Laerte meurt, la reine elle meurt, Hamlet il va tuer le roi, et puis il meurt face au public en faisant un grand discours. C'est très shakespearien, c'est très beau. On a dit comme ça, ça semble un peu affreux, hein, mais en fait c'est absolument sublime.
Merci pour ce récap, on sait tout maintenant, on s'en souvient. Vous jouez qui dans Hamlet ?
Alors dans Hamlet, quand on fait le spectacle, en fait moi je ne joue pas, je suis narrateur et meneur de jeu. Mmh. Et avec Laurent, donc mon co-directeur, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend les personnages dans le public peu à peu. Donc moi j'installe l'ambiance, on dirige les comédiens amateurs en herbe directement sur la scène, tout en racontant l'histoire. Et tout notre travail, c'est de faire en sorte que apparaissent sur scène Hamlet, Ophélie, Polonius, le roi, la reine, Rosencrantz et Guildenstern, etc., etc. On fait venir pas mal de monde en scène.
C'est génial, donc on peut participer, on peut devenir acteur le temps du spectacle.
Oui, c'est ça, c'est tout le principe d'une salade, en fait, le public devient acteur.
Et ça se passe avec des props, des accessoires ?
Alors presque rien, mais ça on vous en dira pas plus, faut venir voir, mais on a presque rien, parce que faut bien avouer qu'en théâtre de rue, l'un des principes du théâtre de rue, c'est d'utiliser la rue et l'endroit où on est pour jouer. C'est intéressant, c'est qu'on n'amène pas de décor, le décor est déjà là. Et ce qui est super, c'est que le décor change chaque fois quand on fait du théâtre de rue. Hein, si vous jouez devant une pharmacie ou devant un funérarium, ça raconte pas la même histoire pour Shakespeare, par exemple. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'utiliser ce qu'on a autour de nous et d'avoir un minimum d'accessoires. En tout cas, c'est ce que nous, on défend avec les batteurs de pavés, c'est de se dire comment on fait du théâtre de rue. Parce qu'après, si vous mettez un grand décor, des rideaux, de la lumière, à un moment donné, il vaut mieux aller dans une salle, hein. C'est protégé, les sièges sont confortables, il pleut pas, il n'y a pas de vent. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on va dans la rue ? Pour faire des spectacles gratuits. Je vous rappelle que les spectacles gratuits, c'est quand même vos impôts qui les payent au final, donc c'est un juste retour des choses. Et puis en même temps, c'est une manière de pouvoir parler à tout le monde et de faire les choses plus simplement. Quand tu vas voir du théâtre de rue, tu viens, puis si t'aimes pas, t'as le droit de partir en tant que public. T'as le droit de rester derrière à fumer une clope ou boire une bière.
Ça vous dérange pas ?
Non, au contraire. Quand un public part, c'est une manière pour lui de dire qu'il est d'accord ou pas d'accord, ou qu'il a pas envie d'écouter ça à ce moment-là. Et je crois que c'est vachement important que le public ait le droit de s'en aller. Ça permet au public de venir assez détendu, découvrir des choses qu'il connaît pas, parce qu'il sait que s'il n'aime pas, il peut partir. Et c'est vachement important. Parce qu'on est en train de perdre avec la salle, les gens ont peur un peu d'entrer, il y a plein de publics qui n'entrent plus dans les salles de théâtre. C'est bien dommage. Et c'est comment est-ce qu'on propose à ces gens de quand même venir voir un spectacle? Comment est-ce qu'on a le droit de regarder un spectacle depuis sa fenêtre en étant en pyjama? Bah, il y a que le théâtre de rue qui le permet. Vous pouvez rentrer de la plage encore dégoulinant d'eau salée et de sable et venir vous asseoir devant et puis manger une glace.
Est-ce que vous jouez même quand il pleut, quand il y a de l'orage?
On essaye de jouer quand il pleut. Il y a des limites, hein. À un moment donné, quand le public commence à se noyer, on s'arrête. Non, le plus grand problème en théâtre de rue, c'est pas la pluie. Le vrai problème en général, c'est le grand soleil.
Ah oui.
Alors, c'est pas le cas cette année, on n'a pas de soucis.
Et non, surtout mieux, en Vendée.
Non, non, c'est pas qu'en Vendée, hein, vous inquiétez pas, c'est partout en France, à part tout au sud. Non, c'est quand il fait plus de 40 ou 45 degrés, c'est arrivé. Là, vraiment, c'est extrêmement dur de jouer. Mais vous pouvez jouer sous la neige en théâtre de rue, c'est super, l'expérience est folle.
Vous l'avez déjà fait?
Oui, on l'a déjà fait, ouais. On a déjà fait ça. On a joué sous la neige, c'était aux Ors, dans les Alpes du Sud, dans une station où il faisait moins 11. Et puis, il neigeait d'abord, puis après, il a fait moins 11.
Et en Suisse, vous êtes basé où?
Alors, on est basé dans une ville qui s'appelle La Chaux-de-Fonds. Alors les comédiens sont vaudois, donc lausannois, tolochinois et yverdonnais. Et moi, la compagnie, on est basé dans une ville qui s'appelle La Chaux-de-Fonds, qui est une ville dans l'arc jurassien à 1000 mètres d'altitude. C'est en face du département 25, donc le Doubs. On n'est pas très très loin de Morteau. Ils font la fameuse, l'incroyable saucisse de Morteau. Et dans ce coin-là, ils font aussi le vin jaune. Vous savez, c'est
une petite
merveille, mais absolument. Et donc on est juste là en face. Ah bah oui, mais il faut boire ça, Ouais, dans le Jura. Et c'est une ville horlogère. C'est une ville horlogère dans laquelle toutes les grandes montres de luxe passent à un moment donné pour être fabriquées.
Et est-ce que vous avez dans vos cartons d'autres projets de classiques à monter en théâtre de rue?
Alors oui, c'est une catastrophe. L'œil du loup, je ne sais pas si vous connaissez ce texte pour enfants. Bon, c'est un peu moins classique. Mais alors aussi dans les classiques, il est temps qu'on recommence à monter du Bertolt Brecht, par exemple. Mm-hmm. Et puis j'ai très envie, j'en parlais tout à l'heure, j'ai très envie de monter du Sénèque. Ça fait longtemps que ça me turlupine de remonter des Grecs. Et j'ai du Victor Hugo encore dans la poche. On est en train de travailler sur une version des Misérables en duo. Et enfin voilà, honnêtement, à un moment donné, je vais m'arrêter. Mais il y a eu un confinement. Et en fait, j'ai dormi pendant une semaine. Puis après, j'ai eu plein d'idées. Donc le problème, c'est que j'ai de nouveau plein d'idées.
Je sais que vous jouez des spectacles qui durent jusqu'à 6 heures, vous m'avez dit.
Oui, c'est arrivé, ouais.
Mais 6 heures d'impro, d'interaction avec le spectacle.
Non.
Des créations, alors, en quelque sorte.
On a monté les Trois Mousquetaires et il y avait 30 lieux de jeu différents. Parce qu'on s'est dit, en fait, dans ce spectacle, on va aller dans l'endroit le plus adapté. Donc, par exemple, si on est dans la salle du bal du roi, on s'est dit, bon, bah, quel est l'endroit de la ville qui ressemblerait le plus à une salle de bal? Et bien, on s'est dit ça pour chacune des scènes et des chapitres des Trois Mousquetaires, qui est long. Hein, si vous l'avez lu, je vous rappelle que c'est vraiment long. Et donc, on s'est amusé à aller, avec les comédiens, de jouer les Trois Mousquetaires chaque fois dans un lieu bien adapté. Donc le truc, c'est qu'il peut y avoir 1 km entre deux lieux. Donc on s'est dit, on prend le temps, on passe d'un lieu à l'autre, on fait un pique-nique, on boit des bières avec le public, on prend le temps de vivre. Et on a réécrit, là c'est un ami suisse qui a réécrit tout le texte en se basant en partie sur les dialogues, mais qui a réécrit l'histoire de manière à ça tienne en 4 à 5 heures.
Wow.
Parce que si on avait fait vraiment, vraiment tout le bouquin en entier, je pense que l'histoire aurait duré, je sais pas, 18 heures. Parce qu'on connaît les ferrets de la reine, hein, chez les Trois Mousquetaires, mais il y a plein d'autres choses après.
C'est un immense travail. Et je sais que vous êtes des bosseurs. J'imagine que vous êtes des gros bosseurs, les batteurs de pavés. On vous remercie d'être venus aujourd'hui. Je rappelle votre actualité en Vendée. Donc, mardi 17, vous serez à Bretignolles-sur-Mer, à la place des Halles, à 21h pour Richard III ou le Pouvoir Fou. Et lundi, vous serez à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à 21h 30 à l'école des Salines et ce soir vous êtes à Saint-Brévin-les-Pins à 21h à l'école de musique.
Et venez nombreux, il y a de la place, hein. Il y a toujours un petit peu de place, même en dernière minute si vous n'avez pas réservé, il y a moyen d'entrer, ils me l'ont tous dit, donc venez.
En tout cas, vous nous avez donné envie.
C'est clair, très belle voix, vous devriez faire de la radio.
Merci,
Manu.
Moi je vais essayer un jour.
D'accord, bon c'est facile, il suffit de donner l'heure, c'est ce que je vais faire, c'est tout. Presque. À ce soir alors, Saint-Brévin-les-Pins.
Alors rendez-vous ce soir, dépêchez-vous de venir.
Ça marche. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Bon spectacle. Merci Juliette.
Merci. On se retrouve lundi dans les rendez-vous de midi avec, on va parler suspense, de la Haute Festival.